mesdames et messieurs.
Oh, wow! Wow! La Mauricie
se lève! C'est l'effet wow!
Avec Isabelle Perron.
I would never point a gun at anyone and pull a trigger at them, never.
What did you think happened? How did a real bullet get on that set?
I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn't even supposed to be on the property.
How do you respond to actors like George Clooney who say that every time they were handed a gun, they checked it themselves? Your emotions are so clearly so right there on the surface. You felt shock. You felt anger. You felt sadness. Do you feel guilt?
Il a répondu non à la dernière question en passant. Est-ce que vous ressentez de la culpabilité? Celui que vous venez d'entendre, c'est Alec Baldwin, l'acteur. Je ne voulais absolument pas rater cette entrevue d'une heure. Salut Isabelle,
allô.
Premièrement. C'était très attendu. C'était sa première entrevue et la seule qu'il va accorder d'ailleurs à ABC. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Je l'ai trouvé solide hier.
Oui, il était bien préparé. L'animateur aussi, George Stephanopoulos sur ABC, c'était vraiment bien. Une heure où la bande-annonce que l'on a entendue, c'est un bout de la bande-annonce qu'on nous avait dévoilée sur le web. C'était attendu, où on en a appris, bon, très peu sur le déroulement des choses parce que lui aussi, il sait pas ce qui s'est passé. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est, ben, je tiens une arme, mais tu sais, je sais pas pourquoi on en est venu là.
Ben, en fait, oui, mais il est quand même allé dans certains détails parce que la femme qui est décédée, donc la directrice de la photographie, il racontait qu'elle lui expliquait la scène qui s'apprêtait à tourner. Donc, tu vas, OK, tu vas me regarder, voici, tu vas pointer vers là. OK, corrige un petit peu cet angle-là. Oui. Donc, il expliquait un peu, tu sais, bon, l'avant-drame, là.
Ouais.
Mais c'est sûr que pour la suite, c'est dur à expliquer.
C'est dur, parce que même pour lui, il dit, tu sais, je me sens pas coupable, je me sens pas responsable de la mort de la cinéaste en question dans le tournage. Il était très chamboulé parce que tu as versé des larmes. Beaucoup. À un moment donné, c'était difficile de s'exprimer. C'est vrai qu'il était solide, c'était courageux. Il fallait un jour qu'il fasse une sortie publique. Donc, j'imagine qu'il a choisi celui avec qui il était le plus à l'aise. Mais c'est sûr que ça reste encore obscur parce que on dirait que c'est tout droit sorti d'un chapeau quand tu regardes quelle préparation doit y avoir sur un plateau de tournage. Et Henri Arnault, qui est un de nos correspondants ici que vous pouvez entendre régulièrement dans l'émission du Retour, a parlé avec un armurier de chez Paramount. Puis il explique comment ça marche, les espèces d'armes sur les plateaux de tournage. Puis même pour lui, c'est dur à expliquer.
Aujourd'hui, j'ai pas peur d'en parler du fait que je suis une alcoolique.
Ah, non, ça, c'est pas le bon extrait, c'est Marie-Pierre Morin. On va y aller avec Henri Arnault.
Mal enregistré.
Ah bon, OK.
Bon, on n'aura pas Henri Arnault.
OK, c'est pas grave.
Mais Henri Arnault, donc, racontait justement, là, vous avez tout ça en réécoute sur le 106.9, Mauricie, mais il expliquait que ben, je ne serais jamais capable de vous le dire, mais c'était deux clics, là, c'est compliqué, c'est de la logistique. Puis même pour lui, il dit, tu sais, c'est difficile. Puis ce qu'il expliquait aussi, c'est que pourquoi Alec Baldwin fait une sortie maintenant, c'est sûr que lui, il va être en plein cœur de ce procès. C'est sûr que lui est dans l'eau chaude parce qu'il n'est pas juste acteur, il est producteur. Donc, dans le tribunal, dans ce qui va se faire, parce que là, on est en pré-procès, c'est sûr que ce qui va sortir, peut-être pas comme acteur, mais comme producteur, est-ce que c'était sécuritaire? Est-ce qu'il y avait assez de staff? Rappelons-nous qu'il y avait des gens qui avaient quitté avant cette scène-là le plateau. Donc, c'est sûr qu'on va mettre la lumière là-dessus où on ne sait pas tout.
Non, c'est sûr qu'on ne sait pas tout. Ça, c'est assez clair. Bon, est-ce qu'il a des choses à se reprocher? Je ne le sais pas, mais en fait, tu sais, dans l'entrevue, puis il l'a dit souvent, comment ça se fait qu'il y a une vraie balle qui s'est retrouvée dans ce fusil-là? Parce qu'à plusieurs reprises, il l'a expliqué. Oui. Il dit, on m'a redit, it's a cold gun. Oui. C'est l'expression qu'ils utilisent en anglais.
Il y a quelqu'un qui l'avait crié aussi.
Alors, puis tu sais, on entendait les propos, bon, il faisait référence aux propos de George Clooney. Tout le monde s'est mêlé un peu de cette histoire-là. George Clooney est allé dire, ouais, mais moi, je vérifie toujours personnellement. Nice. Puis tu sais, il a répondu, écoutez, savez-vous quoi? Tous ces commentaires, tu sais, un, ça vient zéro aider à l'histoire actuelle. Là, semblait un peu irrité par ça. Mais j'ai trouvé quand même qu'il était assez solide.
Il était solide. Mais en même temps, ce qui est dur à faire la lumière, c'est qu'il est solide, il était bon. J'ai adoré ce que j'ai vu, mais on ne sait jamais où l'espèce d'entourage de relations publiques est et pas. C'est ça que j'ai dur.
Ah oui, mais tu vois, je ne l'ai pas tant senti, moi. Il y en a, évidemment, il était préparé.
C'est un acteur.
Je le sens. En tout cas, je le sentais vraiment.
Il y avait l'air, en tout cas.
Puis, tu sais, comme je te dis, je pense... En tout cas, on verra le procès, mais je vois pas comment on peut l'accuser de quelque chose.
Moi, je pense que si on l'accuse, c'est en termes de producteur et non d'acteur.
Peut-être, on verra bien.
Mais bref, ça. Mais c'est intéressant, là, sur ABC.
Ouais.
Si jamais vous pouvez réattraper ça, c'est vraiment le fun.
Puis, à la fin, on mentionnait à l'émission 2020, pas vendredi, pas aujourd'hui, la semaine prochaine, il y a un suivi, là, il y a une autre émission spéciale sur ce qui s'est passé lors de ce tournage-là.
Puis, je pense qu'au fait, cette histoire-là va permettre de mettre en lumière, parce qu'il y en a une qui a dit, je vous avoue, là, que... sais, j'ai pas vérifié à 100% parce qu'il faut qu'ils vérifient, ils ont un protocole. Puis j'avoue qu'on l'a comme lâché lousse un petit peu. Je pense que ça va permettre de resserrer tout ça. Ça permet de poser des questions. Tu sais, comme Alec disait qu'il voulait plus retoucher à une arme. Là, c'est sûr que sur les plateaux, c'est terminé.
Bien, même, il est pas sûr de revenir comme acteur. Non. Il dit, ça se peut que ma carrière, elle soit terminée. C'est clairement les moments les plus difficiles de toute ma vie.
Pour lui, c'est un choc post-traumatique. C'est la thérapie, là. Je veux dire, lui, c'est pas drôle pour lui non plus.
Non, absolument. Alors voilà, donc la réécoute est facile. Là. Vous tapez entrevue Alec Baldwin, ABC, puis c'est facile à retrouver. On a entendu Marie-Pierre Morin.
Ben oui, c'est un avant-goût.
Oui, Marie-Pierre Morin revient, mais c'est pour une bonne cause. J'haïs pas ça comment elle le fait.
Moi, j'aime ça parce que je le sais qu'il y a des gens qui critiquent un peu. Moi, je n'irai pas dans la critique du tout. Marie-Pierre Morin, on le sait, là, elle essaie de revenir avec Tout le monde en parle. Elle a eu des commentaires très négatifs. Ça a été très partagé. Il y a des gens qui disaient « Oui, Marie-Pierre a le droit de faire ce qu'elle veut. » D'autres, « Non, elle n'est pas fine. » Puis vraiment, c'est deux clans très partagés. C'est très virulent, les commentaires qu'on lit. Cette fois-ci, elle revient, mais elle nous avoue qu'elle n'a pas seulement été dépendante de l'alcool, mais également de la cocaïne. Elle a raconté ça dans un podcast où elle nous raconte finalement qu'elle veut partir Grain d'espoir. Grain d'espoir, c'est un nouveau café parce qu'elle veut amasser de l'argent pour les gens qui ont des dépendances. Elle dit, tu sais, ça a été difficile pour moi de l'avouer. C'est difficile pour moi de mettre ça publiquement pour différentes raisons. Elle s'est expliquée à Un Expresso avec Angelo. Ça aussi, c'est hyper facile à voir. Certains vont dire que c'est l'espèce de tendance marketing parce que la sortie du film Arlette, on l'a vu sur le tapis rouge d'Aline. Moi, je pense que peut-être, c'est sûr qu'il y a toujours une relation publique quelque part. Mais en même temps, je pense qu'elle est honnête dans sa démarche parce que c'est la seule, depuis le début là, de la vague MeToo et tout ça, c'est la seule qui revient, qui trébuche, qui réfléchit, qui revient. Elle est très courageuse, moi, je trouve. Puis elle l'explique un petit peu, justement, puis dans toute sa fragilité, comment c'est pas évident pour une femme particulièrement de mettre ça en avant-plan.
Aujourd'hui, j'ai pas peur d'en parler du fait que je suis une alcoolique puis que la drogue que je consommais, moi, c'était la cocaïne. J'en parle, puis j'ai le cœur qui me débat. Mon Dieu, je trouve ça... Je vais prendre une petite seconde.
Prends ton temps.
J'en ai pas parlé aussi pour la simple et bonne raison que si on se fie à l'historique, mettons au Québec, il y en a très peu des femmes qui ont nommé la substance. Puis là, je vais la nommer parce qu'elle l'a déjà fait par le passé. C'est France Castel qui l'a faite il y a très longtemps. Puis on en a fait une tête de turc pendant je sais pas combien d'années. Fait que c'est certain que ça donne pas envie à une autre femme de le faire. Après ça, il y a des gens qui sont sortis dans les dernières années, puis chapeau à elle de l'avoir faite. Puis moi, ça m'a donné espoir. Mais on dirait qu'il y a quelque chose d'accepté dans le fait qu'un homme ait consommé de la cocaïne. T'sais, puis là, je vais parler de Sylvain Marcel, je vais parler de Maxime Martin, je vais parler d'Éric Lapointe. Quelque chose de rock, quelque chose de la vie tournée, quelque chose d'un peu accepté, de dédouané. Mais quand c'est une femme qui parle de consommation, on tombe immédiatement dans le jugement, dans la destruction, dans les insultes. Puis pour être très franc avec vous autres, moi, quand j'ai consommé de la cocaïne, dans les soirées où j'en ai faites, j'en ai fait avec autant de filles que de gars, tu sais. Fait que c'est fou de penser que c'est une drogue de gars. Parce que quand t'as un problème d'estime de toi, quand t'as un problème d'image, quand t'es pas capable de t'aimer, quand t'es pas capable de vivre en société, que tu fais de l'anxiété sociale, mais que tu le sais pas, la cocaïne devient vraiment le Saint Graal parce que t'as l'impression que t'es meilleur, que t'es plus drôle, que t'es plus intelligent, que t'as plus de répartie, que t'as plus de confiance en toi, que t'es plus hot. Moi, j'étais convaincue que les gens aimaient mieux la version en consommation de moi. J'avais réussi à me vendre cette idée-là.
C'est très pertinent ce que tu dis.
J'ai un frisson, puis honnêtement, c'est pas évident. Je pense qu'on réalise pas à quel point de dire ça publiquement.
Ouais.
C'est pas évident. C'est un gros travail. Et pour tous ceux et celles qui critiquent, chacun a droit à son opinion. Mais seulement, il faut se poser la question sur, tu sais, quand tu fais une erreur dans la vie, ça se peut. Mais on n'aurait pas droit peut-être à une deuxième chance.
Oui. Mais ce qu'elle amène aussi comme explication, on l'entend pas souvent.
Non.
Et c'est vrai ce qu'elle dit. C'est de la cocaïne chez des
c'est correct.
Chez les gars, ben oui, il a pris de la coke. Ben oui, mais on le sait bien, là, c'est des rockers. Puis ben, ça fait partie
c'est
du
normal.
Mode de vie. Une femme, oups, oh, ça dérange plus.
La preuve.
Ouais.
Puis je sais que chacun a fait des crimes différents. Par Pierre Morin, là, elle revient, mais elle se fait vraiment critiquer comme elle se fait aimer. Éric Lapointe revient, criquet, aucune critique.
Oui, alors que moi, tu vois, ça me dérange profondément.
Voilà.
Alors, j'ai beaucoup de misère avec ça. Mais c'est franchement,
je le salue.
Sais-tu ce qui m'a frappé hier? Je l'ai vu parce que c'était partagé beaucoup là, sur les réseaux, sur Instagram. Et c'est fou comment la consommation transforme physiquement et mentalement quelqu'un, évidemment. Elle est magnifique actuellement. Elle est sans consommation et ça paraît dans son physique, dans son, dans son, sa peau, son,
tout, la lumière dans l'œil.
La lumière dans l'œil, tout. Ça fait une énorme différence.
C'est comme si elle est toute là, elle prend conscience. Mais moi, je veux juste, peu importe ce que vous pensez de la femme, là, le courage que ça prend pour sortir ça publiquement.
Absolument. Bon, on change de sujet. La Casa des Papels est de retour.
Hey, là, c'est la deuxième partie de la cinquième saison parce que c'est la mode maintenant de sortir ça en bloc. Alors, on va pouvoir avoir cette chanson-là en tête toute la fin de semaine. Bella, ciao! C'est la première série qui a fait un hit comme ça sur Netflix, pas produite aux États-Unis, série espagnole qui a ouvert la trail, je me permets de l'expression québécoise, au jeu du calmar qui est sud-coréenne, à Lupin qui est français, où on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir du talent ailleurs qu'aux États-Unis. Vraiment. Des séries qui ont été originales aussi, puis bien évidemment tournées d'une autre façon, parce que c'est une autre culture. La cinquième saison, c'est la cinquième saison partie 2, ça a l'air qu'on ne sera pas capable d'aller se coucher tant qu'on n'aura pas tout regardé. Ça veut dire des nuits blanches, parce qu'il y a quand même quelques épisodes
absolument
sur Netflix. J'ai hâte de voir comment ils vont être capables de boucler la boucle. J'haïs cette expression, mais c'est ça pareil, d'Alex Pina. Vraiment, ça a soulevé les passions. Puis c'est sûr que cette chanson-là, on va l'avoir.
Ah, ça, c'est clair. Absolument. Mais j'ai hâte de compléter cette cinquième saison. Quelques chansons de Noël qui sortent aujourd'hui?
Ben oui, là, on a le droit d'en parler. Donc, celle d'Elton John était vraiment attendue. Oui. Elton John, qui va en sortir deux autres en 2022, c'est quand il a fait sa collaboration avec Ed Sheeran. Les deux gars ont tellement été inspirés que c'est trois chansons qui ont pondu. La première, c'est Merry Christmas. For now, Merry Christmas. We'll dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful. Right now, Merry Christmas. Très bon, ça.
Et
puis la vidéo est sortie, là, c'est kitsch à souhait, là, toutes les décos, le feu de foyer, les guirlandes. Et ça a été créé pour la Fondation Elton John, donc on veut soutenir la recherche contre le sida. Donc en plus, il y a une belle cause derrière.
La prochaine?
Là, c'est la grosse mode maintenant. Là, sur Amazon Music, maintenant, il y a plein d'exclusivités de Noël. Il y a plein d'artistes qui sortent des chansons ou des reprises de chansons qui ne sont que disponibles sur Amazon Music. Ouais, c'est la tendance de plus en plus chez les artistes. Il y en a plein. Entre autres, cette chanson de George Ezra qui s'appelle Come On Home for Christmas. Come On Home for Christmas. Come on home for Christmas, babe. Come on home for Christmas. I remember how cute you looked beneath the mistletoe. Oh, you wrapped up by the fire in my winter clothes. J'haïs pas ça.
Pas mauvais.
Mais là, l'affaire, c'est qu'avec les exclusivités de plateforme, il y a plein de bonnes chansons qui nous passent sous le nez sans qu'on s'en rende vraiment compte. Faut vraiment être à l'affût à cause de ça. Justement, Amazon, qui est un gros joueur dans la musique de Noël.
Absolument.
Il y en a plein, là. Je vous dis, là, si jamais vous êtes abonné à ça, allez voir les chansons de Noël si vous êtes amateur.
Okay.
Et j'avais le goût de finir avec Damien Robitaille, parce que moi, je suis fan fini de Damien.
Ouais.
Il a fait une nouvelle chanson qui s'appelle Tu m'emballes. Vous allez entendre des quand vous écouterez comme il faut l'extrait, c'est qu'il est emballé lui-même d'un papier d'emballage derrière son piano. La chanson s'appelle Tu m'emballes.
Tu m'emballes comme un jouet qu'on ne dévoile que le jour de Noël. Sous ton sapin,
ça te répète un petit peu.
Je vais attendre. Ouvre-moi le 25 décembre. Dans mon cœur.
Ah oui, on l'entend. Il est emballé.
De m'amener, il perd sa tête, fait que sa tête devient dénudée de papier. Ça dure 2 minutes 30, mais c'est vraiment de l'écoute. Oh, ça fait du bien, là.
J'adore. Ça termine bien cette chronique.
Tu m'emballes.
Hey, ça date de rien, mais dans 3 semaines, c'est Noël.
Ça n'a pas de sens, ça va vite.
Voilà,
sur mon calendrier de l'Avent, moi, je suis rendue au 10 décembre.
Hey, je t'entends sur mon calendrier de l'Avent, j'ai même pas commencé. Non, il ne faut pas prendre de l'avance.
Non.
Mange pas tes chocolats avant.
Mais j'en ai deux, là, juste pour...
Ah, t'as deux calendriers?
Ben oui, parce que je sais qu'il y en a un que je me gère
justement,
pas.
Justement, encore moins de raison de manger des chocolats d'avance.
Parce que la vraie raison, c'est que mon premier calendrier, je l'ai acheté puis il était vraiment pas bon.
Ouais.
Puis j'ai fait des cadeaux aux collègues, il était pas mangeant.
Okay,
là, je n'ai racheté un deuxième.
Okay, bon.
Mais là, on est rendu à la porte 10.
Bon. 10
ans.
Mais je me dis que c'est comme si les vacances arrivaient plus vite.
Mais c'est pas ça le principe du calendrier. C'est d'attendre. C'est d'avoir hâte. C'est comme un enfant. Attends Noël.
J'ai pas passé le stade de la dizaine encore.
Je vais être obligée de te laisser là-dessus. Je vais être obligée de te chicaner. Salut, bonne fin de semaine. Salut. On s'en parle lundi. Isabelle Perron, donc de retour lundi matin, 8h50.